Bien le bonjour, David Gauthier.
Salut Valérie, ça va bien?
Oui, hey, à la pharmacie, on vend des bonbons d'Halloween. Hein?
Oui, c'est sûr.
C'est la semaine prochaine.
Oui.
Puis ton tipit, il va se déguiser lui, oui. Pour l'Halloween.
Écoute, c'est notre premier Halloween. Là.
Tu mangeras pas de bonbons nécessairement.
Non, c'est un trip de parents, là, on s'entend. Là, il n'y a aucune idée.
Lui, il a même pas un an.
Aucune idée de ce qui se passe. Non, il y a 8 mois, à vrai dire. Mais j'ai pas pu m'empêcher. Là, je passais à côté d'un petit saut d'éléphant. Mm-hmm. Pour ma blonde, on tripe bien ses éléphants dans sa chambre. Fait qu'on va y mettre un petit saut d'éléphant. Puis on va ouvrir la porte. Puis on va être bien fiers de montrer notre gars déguisé.
Ah, c'est
puis
le
un
début
jour...
d'une tradition.
Et voilà. Donc là, on a comme la pression de décorer à la maison. On n'a jamais fait ça. Puis là, vu qu'on a un enfant, on se sent comme un peu obligé de le faire,
oh,
mais bon.
T'imagines à Noël de quoi ça va
avoir? Non, je veux pas imaginer, justement.
Aïe, 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 ça attends va venir vite, ça.
Oui.
Ça. Là, on a parlé de bonbons. Il y en a qui prennent des médicaments, justement, comme des bonbons, David.
Un excellent lien, oui.
Tu veux me parler de surprescription.
Oui, de surprescription. Et puis, t'en as parlé tantôt, justement, du fentanyl, les opiacés.
Ouais.
Un des phénomènes qui est pointé du doigt, c'est la surprescription.
Et ça peut être mortel, là. On se cache pas,
c'est sûr. Et en même temps, quand on parle de surprescription, peut-être le premier réflexe des auditeurs, c'est de penser aux médecins qui prescrivent.
Oui. Hein?
Ça serait tellement trop facile de lancer la pierre sur le médecin prescripteur. Moi, j'ai essayé de réfléchir à ça puis de me dire pourquoi qu'on surprescrit? Pourquoi qu'il y a trop de prescriptions? Il y en a-tu trop? C'est la première question qu'il faut se poser.
Mm-hmm.
Le manque de temps. Des fois, je me dis, dans le manque de temps de diagnostic, le temps avec un patient...
On se débarrasse, quoi?
Pas qu'on se débarrasse, mais on essaie de régler les problèmes rapidement. Ouais, donc, on prescrit puis on essaye quelque chose.
On va pas assez loin, peut-être, dans la démarche.
Peut-être. Des fois, le médicament devient un essai diagnostique aussi. Si on essaie un médicament puis ça marche, on sait c'était quoi le problème. OK? Mm-hmm. Première des choses. Deuxième des choses, je pense qu'il y a une pression des patients. Les patients sont de plus en plus informés. Internet.
C'est terrible, ça, pour des médecins, hein, j'imagine.
Ben, puis pour un pharmacien aussi, hein. Des fois, on se fait confronter avec ça. Ils ont lu quelque chose sur Internet.
Je sais pas de quoi tu parles.
Non, toi, t'es drôlement bien informé. mais c'est vraiment quelque chose de réel. Donc, des fois, il y a une certaine pression à vouloir se faire traiter. Deuxièmement, il y a un choix de médicaments qui est beaucoup plus grand qu'avant. Donc, on a donc le choix de prescrire quelque chose, d'essayer quelque chose.
Puis des fois, tu vas consulter deux médecins pour la même affaire, ils diront pas la même chose.
Ben ça, c'est sûr, mais ça, c'est la beauté de la médecine.
Hein?
Ça n'est pas noir sur blanc, la médecine.
Ben
on essaie
oui.
quelque chose et je dis toujours, commencer un médicament, ce n'est pas une fin en soi. Et je rajouterais à ça la crainte des patients. Parce que le jour que je te donne un médicament, et que ça fonctionne.
Les maudits effets secondaires. Moi, j'ai peur de ça.
Non, c'est pas là que je vais t'amener, Valérie. T'as peur de tout, Valérie. C'est ça le problème.
Ouais.
Non, c'est que dometons que tu... 6 mois plus tard, je vais te donner un exemple bien banal. Les IPP, c'est des médicaments pour l'estomac. OK?
Ouais.
Donc, je te donne un médicament qui va enlever l'acidité pour guérir ton estomac.
Je sais pas de quoi tu parles.
Non, mais...
Continue.
Oui. C'est que si je te donne ça, normalement, ça prend 6 à 8 semaines avec un IPP, avec ce médicament-là, pour enlever l'acidité et donner le temps à l'estomac de se refaire ni plus ni moins une beauté.
Et c'est quand même long. Hein?
Donc, que la muqueuse soit réparée. OK? Donc, après 6 à 8 semaines, on devrait être capable d'enlever le médicament et de dire à notre patient, continue sans le médicament, ton estomac va être correct.
Ah oui?
Il y a bien des patients qui n'aiment pas beaucoup ça parce qu'ils ont peur d'avoir mal à l'estomac. Il y a des patients peut-être qu'on enlève le médicament puis qui ont mal à l'estomac, mais finalement, il n'y a plus d'ulcère d'estomac.
Peut-être juste à y penser, on a mal à l'estomac.
Comprends-tu la complexité de l'affaire?
Ouais, ouais.
Puis c'est des fois, on enlève le médicament puis en même temps, ben il y a vraiment un problème, donc il faut poursuivre le médicament. Donc, il y a tellement de choses à tenir en compte, de critères à tenir en compte dans cette surprescription-là que, comme je dis, il ne faut pas jeter la pierre sur personne. Il y a des chiffres quand même qui font assez peur, OK? Au Canada, OK, il y a 2 personnes sur 3 de 65 ans et plus qui prennent au moins 5 médicaments.
OK? Oh.
Il y en a 1 sur 4 qui en prennent 10 et plus. Et là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en vieillissant, notre métabolisme change. Tu sais, quand je te parle de mon fameux IPP pour l'estomac,
mm-hmm.
puis qu'on dit que peut-être que dans le temps, tu n'en auras plus de besoin...
Là, tu vas avoir besoin d'autres choses.
Écoute, mais mets ça amplifié, là. C'est que, mettons, je te donne 10, tu as 10 médicaments. Peut-être que tu prenais un médicament pour dormir, un somnifère, que tu prenais à 64 ans parce que tu faisais des situations stressantes, que tu faisais des choses qui faisaient en sorte que tu dormais pas bien, que tu avais besoin de sommeil parce que tu avais une vie active. Peut-être que rendu à 86 ans, tu en as moins de besoin. Peut-être que tu as moins besoin de dormir parce que tu dépenses moins de calories aussi dans une journée puis moins d'énergie. Fait que peut-être qu'on est en train de te faire dormir pour rien.
Ouais, ouais.
Et peut-être que si on te l'enlève, c'est très, très, très anxiogène. Et peut-être qu'on a développé une dépendance à un médicament, mais qu'on est quand même dans une situation où on pourrait l'enlever, ce fameux somnifère-là. Les antipsychotiques, c'est le même principe. On va en donner dans certaines conditions, on va les poursuivre sans réévaluation profonde. Et en même temps, c'est comment qu'on l'amène à un patient. c'est de dire à un patient, je vais t'enlever une pilule, je vais t'enlever un médicament, ça peut faire très, très peur. Mm-hmm. Par contre, de dire à un patient, je vais réévaluer ta santé et les besoins que tu as, peut-être que ça fait un petit peu moins peur. C'est tout aussi bête, les médicaments contre l'allergie, là, je pense que je sais de quoi, tu sais de quoi je parle, les médicaments contre l'allergie. les médicaments oui. antidiabétiques, écoute, ça paraît, c'est quand même des pathologies qui sont importantes à traiter. Je dis pas qu'il faut enlever les médicaments. Par contre, des fois, il faut réévaluer la situation et ça veut pas dire que quand on a commencé un médicament, si on a changé certaines habitudes de vie, qu'il faut pas diminuer des doses ou ajuster des médicaments.
Effectivement.
Donc, c'est quand même une profonde réflexion qu'il faut avoir. Écoute, en France, j'ai vu une étude, c'est quand même fou, là. Ils disent que 97% des femmes enceintes ont consommé au moins un médicament pendant leur grossesse. Je serais curieux de savoir, dans ce 97%-là, toutes les femmes qui avaient réellement besoin d'un médicament.
Et les études cliniques sur les femmes enceintes, on n'en fait pas parce qu'on ne sait pas ce que ça peut
On n'en a pas beaucoup, donner, en tout cas. On y va surtout par rapport à l'expérience clinique qu'on a avec les molécules les plus anciennes qu'on a.
Mais on ne prendra
parce
pas de chance.
Tu as tout à fait raison. Faire une étude avec une femme enceinte et non enceinte, ça ne devient pas très, très éthique mm-hmm. là, de regarder ce que le médicament peut faire. Tantôt, tu parlais de la crise des opiacés. Là. Oui, c'est que quelqu'un va avoir un accident. Puis des fois, au lieu de choisir un médicament qui n'est pas un opioïde, qui peut gérer la douleur de différentes façons, on va rapidement aller vers la morphine parce qu'on sait que c'est très, très efficace
ouais.
et qu'on va guérir, pas guérir, mais qu'on va traiter la douleur de la personne. Par contre, on a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à l'accoutumance et qu'on va se ramasser avec ces problèmes-là. Comme je dis, c'est pas la seule cause, là, mais quand on parle de surprescription, c'est une des causes possibles. L'autre point que je voulais t'amener, c'est au niveau de la déprescription. Je pense que je t'en ai déjà parlé l'année passée, c'est qu'entre autres, en Ontario, les pharmaciens sont payés pour faire de la déprescription. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont le temps de rencontrer un patient, d'évaluer le dossier pharmacologique et au bout de ça, de dire « Écoute, je pense que tu n'as peut-être pas besoin de ça, tu n'as peut-être pas besoin de tel médicament. On va appeler le médecin, on va écrire au médecin, on va essayer de le cesser puis de te réévaluer puis je vais te suivre. »
As-tu le temps de faire ça, toi?
Présentement, on n'a pas beaucoup le temps de faire ça. Le temps est toujours.
C'est ça que je me disais.
Tu sais, au début, je te disais, le temps peut être la cause de la surprescription chez le médecin. Bien, c'est le même principe rendu à la pharmacie. Mais si on débloquait le temps pour ça, et je pense que c'est faisable, si en Ontario réussissent à le faire, peut-être qu'on va réussir à le faire ici. Donc, de débloquer du temps à un pharmacien qui fait lien avec un médecin puis qui dit écoute, on peut peut-être faire de la déprescription. Moi, je pense que si le gouvernement donne de l'argent à des pharmaciens pour faire ça, le gouvernement va sauver de l'argent parce qu'il va arrêter de payer pour des molécules qu'on donne pour rien. Parce que faut bien s'entendre sur une chose, c'est le gouvernement qui est l'assurance de pas mal bien du monde. Là. Donc, à ce niveau-là, écoute, j'ai un autre exemple, j'arrête plus, tu m'arrêtes quand il faut que je m'arrête. Là.
Mais ça achève.
Ça achève, hein, mais je vais te dire une dernière affaire. Quand on donne un médicament pour quelqu'un, Valérie, si je te donne un médicament pour ta pression, OK? Et que tu es supposé prendre une pilule à tous les jours et qu'au bout de 6 mois, tu as pris une pilule à peu près, tu en as pris 2 sur 3 jours à peu près. Donc, il y a toujours une journée que tu le manquais.
Mmh. Mais tu sais que je suis une très bonne patiente.
Oui, c'est un mauvais exemple. Ouais, ouais. Mais si tu vas voir ton médecin et qu'il a dit « Écoute, tu n'atteins pas les cibles, ta pression n'est pas belle, on va augmenter la dose. »
Non, mais tu n'as pas été discipliné dans tes affaires.
Ou elle te rajoute une pilule. Là, ça veut dire que tu es rendu avec 2 médicaments pour justement traiter ton hypertension. Mais pendant, le problème, c'était l'observance. Donc, on se retrouve avec un problème d'observance, mais on se retrouve en même temps avec une surprescription de 2 médicaments qui, dans le fond, tu n'avais pas besoin de 2 médicaments et notre gouvernement est en train de payer pour 2 molécules pendant qu'il n'avait juste une de nécessaire si l'observance était bonne.
Et les médecins, les pharmaciens ne sont pas à côté de vous pour savoir si vous prenez vos médicaments.
Hey, je dis souvent, je ne peux pas à la maison aider les gens à prendre leurs médicaments, même si des fois, on aimerait ça les aider jusqu'à la maison. Mais bon, écoute, c'est un problème complexe, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'entraider entre professionnels pour arriver à un bon résultat avec nos patients.
Merci beaucoup, David Gauthier.
Hey, ça me fait plaisir.
À la semaine prochaine.
Bye-bye.